cours de philosophie politique par le père Marie-Dominique Philippe le 22 avril 1999 à Saint-Jeudard.
On commence aujourd'hui à dire quelques aperçus sur la philosophie politique. Historiquement, Platon, c'est important la position de Platon sur la politique. Ça vaudrait la peine de faire un cours sur la République de Platon. Parce que, pratiquement, c'est une position originale. Et c'est un peu le premier qui a voulu faire une philosophie de la République, une philosophie sur la politique. Et la position de Platon, c'est de fait la politique apparaît comme la continuation de ce que Platon voit comme philosophie parfaite, la philosophie des idées. Et à partir des idées, on l'applique en premier lieu à la politique et en second lieu à la justice, à l'éthique personnelle. Et il y a comme une sorte d'application de la métaphysique de l'idée de justice, de l'idée de bien, à l'éthique politique, à la morale politique. Et puis, ensuite, à la morale, à l'éthique personnelle. De sorte que, d'une certaine manière, la politique est plus proche du divin que l'éthique personnelle. On a une théorie de la politique qui est un certain absolu. Les vertus sont écrites en lettres majuscules en politique, en lettres minuscules dans chaque individu. La justice écrite dans le point de vue politique est parfaite. Dans les individus, elle n'est pas parfaite. Mais c'est ça qui est très curieux. Alors, ça fait comprendre un peu cette parole d'Aristote. Le bien commun est un bien plus divin que le bien personnel. Là, est-ce que, c'est une question, est-ce que cela est un reste de Platon dans Aristote ? Qu'Aristote peut prendre pour montrer qu'il y a quelque chose de juste dans ses paroles et qu'en même temps, ce n'est pas sa position à lui. Mais c'est toujours ce que je me demande. Étant donné le souci d'Aristote de montrer ce qu'il y a de vrai dans Platon, qu'il l'a aimé pendant 20 ans, il a été le disciple de Platon. C'est impossible. le vieillard était 20 ans disciple de Platon, il n'ait pas gardé quelque chose. Or, c'est peut-être en politique que Aristote considère que Platon est le plus vrai. Ce désir intense de Platon d'être roi, donc d'être tyran, ce qu'on appelle tyran, non pas dans un sens péjoratif, mais d'être le chef. Platon avait ça dans le sang, puisqu'il avait des oncles qui avaient été dans le gouvernement et des grands-pères qui avaient été empereurs. Donc, il a ça dans le sang, Platon, d'être roi, tyran. Aristote, pas du tout. Et c'est sûr qu'il y a une très grande différence entre ces deux visions qui, je crois, sont les deux grandes visions politiques. Platon, Aristote. Nous n'avons pas le temps de voir la vision platonicienne, mais elle est très intéressante. Parce que elle contient pratiquement toutes les visions d'un totalisme absolu politique. Et Aristote vient, lui, montrer que c'est tout à fait différent. Aristote, comme toujours, part de l'expérience et non pas d'une vision contemplative. Il aboutit à la contemplation, mais il part de l'expérience. Et c'est très net quand vous regardez dans la politique d'Aristote, dès le premier livre. Voyez, théorie génétique de l'État, le couple, la famille, le village. Il part du couple, l'homme et la femme qui font de la famille. Et de la famille, on voit les diverses familles, le village. Et du village, on voit la communauté parfaite. Le village est essentiellement une communauté intermédiaire entre le couple, qui est une communauté naturelle et fondamentale. C'est pour ça que relativiser le couple, comme on le fait actuellement, c'est la destruction de la communauté humaine. On verra les conséquences. Et c'est forcé. Mettre sur le même plan une communauté naturelle et une communauté faite par le bon plaisir de l'homme, c'est relativiser l'aspect naturel pour passer devant le point de vue artificiel. Et c'est la grosse question actuelle en France. Et donc, mettez tout de suite en Europe. L'Europe commence par quelque chose qui n'est plus naturel. Et c'est un très gros problème. Et je comprends très bien que c'est le problème majeur aujourd'hui auquel on doit penser. On doit penser. Parce qu'on nous demande conseil, même si on ne fait pas de politique. On doit, au point de vue philosophique, comprendre ce qu'est la politique. Vous voyez, la vision de Platon l'action de la justice, par la justice. C'est par la justice que Platon voit l'État. La justice écrite en grandes lettres, dans le point de vue politique, en petites lettres sur l'individu. Et donc, c'est toujours ce qui est écrit en grandes lettres qui nous permet de voir ça à distance. Et donc, la politique fonde la morale personnelle. Pour Aristote, la morale personnelle fonde la politique. En gros, c'est ça. Et dans une topique historique, il faut voir Platon et Aristote. Et puis il faut voir ensuite toutes les théories qui ont été émises au point de vue politique. Pour nous, comme nous avons essayé de comprendre ce qu'est l'éthique personnelle avec l'amour d'amitié, qui est le fondement de l'éthique personnelle, de l'acte moral. L'acte moral est premièrement un acte personnel. Vous voyez, c'est là, je crois, la très grosse différence. Est-ce que vous fondez l'éthique sur la vertu ou est-ce que vous fondez l'éthique sur l'acte moral? C'est la première question qu'on doit se poser. Indépendamment d'Aristote, indépendamment de Platon. Est-ce que l'éthique se fonde sur la morale? Ou est-ce que l'éthique se fonde sur les vertus? Pour Platon, c'est la vertu. Pour Aristote, c'est l'acte moral qui fonde la politique. Et donc là, il y a une question très intéressante et très importante, indépendamment de Platon et d'Aristote, pour nous. Nous faisons la philosophie politique de notre temps. C'est-à-dire, quelle est la philosophie politique humaine? Et vous voyez, le problème alors, comme l'amour d'amitié fonde la morale humaine, je crois, l'amour d'amitié va fonder aussi la politique. Il y a le même fondement. Et c'est l'intérêt, je crois, de découvrir comment l'amour d'amitié est bien fondement éthique. Ça fait tout de suite un prolongement par le point de vue politique. En éthique, on étudie, on analyse l'acte humain d'amitié. Et on voit que cet acte humain d'amitié fonde aussi la communauté familiale. La communauté familiale est fondée sur l'amour d'amitié. Et en théologie, le sacrement de mariage, se fonde sur l'amour d'amitié. Si il n'y a pas d'amitié entre les fiancés, y aura-t-il encore un sacrement de mariage? Et c'est une très grave question, puisque l'amour d'amitié implique moral. Parfait. Si cet amour d'amitié n'existe pas, qu'on se marie parce qu'il faut se marier. On arrive à un âge avancé, il faut se marier. Est-ce que l'amour d'amitié est là pour nous montrer que cet amour d'amitié va permettre aux époux de se marier? Avant, c'est la passion. On ne se marie pas parce qu'on est passionné pour quelqu'un. La passion n'est pas un fondement pour un acte humain. Et donc, si je reste au niveau passionnel, la grâce du mariage ne peut rien perfectionner. La grâce du mariage ne sanctifie pas la passion. Elle sanctifie l'amour mutuel de l'époux et de l'épouse. Donc l'amour volontaire et spirituel d'amitié de l'époux et de l'épouse. Mais s'il n'y a pas cette amitié, est-ce que le mariage est encore valide? Lorsqu'on se marie uniquement par passion. Mais c'est un problème très très délicat et très important aujourd'hui. Parce que la plupart des mariages, hélas, même en milieu chrétien, se font à partir de la passion. Passionnément celui qu'on a choisi pour être l'époux. On aime passionnément celle qu'on a choisie pour être épouse. Or, les fiançailles sont faites pour passer de la passion à l'amitié. Et quand l'amitié existe, on peut recevoir le sacrement. Je cite ça à titre d'exemple. Mais une fois, je connaissais surtout un garçon. Il veut se marier. Je lui demande le motif. Il me dit, je l'aime passionnément. Je voudrais la convertir. C'est pour ça que je me marie. Alors je lui dis, alors je bénis pas votre mariage. Ah, il n'a pas compris. Il était furieux. Mais je dis, Jive, on ne se marie pas pour convertir son épouse. On se marie parce qu'on l'aime. C'est très bien de la convertir. Je n'ai rien contre. Mais on ne se marie pas pour cela. Mais il y a derrière un certain fidéisme. Le fidéisme joue surtout du côté de la foi, mais il peut jouer aussi du côté du mariage. C'est plus rare, parce que c'est très rare qu'un époux, un fiancé vienne dire ça. Je me marie pour la convertir. Alors voyons, c'est merveilleux, oh, c'est étonnant. Non, j'ai dit, on ne se marie pas pour ça. Mariez-vous si vous voulez, en demandant au curé de bénir votre mariage. Je ne viendrai pas à votre mariage. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été vers le curé demander ça. Il a dit au curé qu'il se mariait pour la convertir. Le curé dit, ah, très très bien, très bien. Il a béni tout de suite leur mariage. Un an après, Il venait me voir, comme ça, nous voulons nous séparer. Nous voulons divorcer. C'était normal, il ne s'aimait pas. Alors, vous voyez, et ça, c'est très, très important pour nous. Après, tout, il y a quelque chose là qui est naturel, l'amour d'amitié. Le mariage. Alors, la question, c'est de savoir, y a-t-il une philosophie qui peut s'établir pour la politique? Une philosophie réaliste, c'est-à-dire une philosophie qui cherche les principes propres de ce qu'on étudie. Avant de commencer, je crois qu'il est bon de réfléchir là-dessus. On peut servir de Platon, on peut servir d'Aristote. La communauté politique, est-ce qu'elle nous fournit une expérience qui nous permet d'induire un principe propre? S'il n'y a pas de principe propre, il n'y a pas de philosophie propre. Et c'est là la grosse question. Je peux, d'un point de vue purement historique, faire une étude de la politique d'Aristote. Quels sont les principes propres de la politique? En éthique, je vois, il y a une finalité. Y a-t-il une finalité propre pour la politique? Quelle est la finalité propre de la politique? Est-ce que c'est le bonheur? Non. Le bonheur, c'est l'éthique personnelle. Et c'est l'amour d'amitié. Et c'est la contemplation. Donc il y a une découverte en éthique d'un principe propre qui est la finalité. En politique, en communauté politique, y a-t-il un principe propre? Première chose à établir, c'est qu'il y a diverses communautés. Il y a le couple, il y a la communauté des travailleurs, et puis il y a la communauté politique. Vous avez trois types de communautés. Trois types. La famille. La famille a un principe propre, la procréation, une amitié impliquant la procréation, impliquant le don des corps pour la création. Donc, là, il y a une fin. Une fin qui lui est propre, indépendante. indépendamment de l'amour d'amitié des époux. Est-ce que avoir des enfants est une finalité propre? Est-ce que avoir des enfants n'est pas une finalité propre de l'homme et de la femme? Mettre au monde des enfants, est-ce que cela finalise une personne humaine? La génération implique l'éducation. Alors, c'est différent. Est-ce que mettre au monde des petits êtres nouveaux et les éduquer pour qu'eux-mêmes deviennent capables de choisir une finalité humaine qui est leur propre finalité? Est-ce que cela finalise une vie humaine? Faisons attention. Choisir sa finalité propre. Quand nous étions jeunes, quand nous avions 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, est-ce que le fait de choisir la vie religieuse est une finalité? La contemplation. Est-ce que ça finalise les parents? Non, absolument pas. Ordinairement, les parents ne sont pas tellement chauds de faire que leur fiston, que leur fille, se marient pas. Parce qu'ils ont l'expérience du mariage. Alors, ils n'ont pas l'expérience de la vocation contemplative. De sorte que les parents peuvent dire oui, oui, très bien. Et c'est, tu verras, on verra dans 10 ans si ça colle. Mais je ne peux pas le savoir. Au plan purement philosophique. Tu ne veux pas le savoir. De sorte que ce choix, c'est pour l'enfant. C'est pas les parents. La preuve, c'est que le choix des parents ne valide pas le choix des enfants. Les parents n'ont aucun droit à choisir la finalité de la vie de leurs enfants. Aucun droit. Ils ont un droit de conseil, pas plus. Mais ils n'ont pas un droit qui fait que le choix des enfants est valide grâce à l'acceptation des parents. C'est très très important de se rappeler ça. Et ça, saint Thomas est très net. Aristote est très net. L'Église est très nette. Donc, si le choix des enfants demeure un choix personnel, les parents n'ont qu'un droit de conseil. Le mariage, leur mariage, n'est pas finalisé par le choix de l'enfant. C'est pas leur choix. Ça, je crois qu'on peut tous comprendre ça. Que l'enfant choisissent de se marier. Très bien. Les parents peuvent très bien pas être d'accord au choix de celle qui va devenir l'épouse de leur fils. Parce que ce n'est pas l'épouse du père. Donc, le fils peut toujours dire à son père, c'est pas ton choix, ça me regarde ça. Et c'est la même chose pour la vocation. C'est pas ton choix, ça me regarde. Donc, le choix des enfants, si noble qu'il soit, si grand qu'il soit, si bien qu'il soit, ne finalise pas le mariage. On est très heureux que le choix des parents coïncide avec le choix des enfants, mais c'est secondaire, c'est accidentel, un peu plus qu'accidentel. Un peu plus. C'est un choix très particulier, mais qui n'est pas celui de l'enfant, qui n'est pas celui du fils qui se marie, de la fille qui se marie. Le choix du fils et de la fille n'est pas le choix des parents. Voilà ce qu'il faut comprendre, ça je crois qu'on peut le comprendre. Donc, quelle est la finalité du mariage ? Je parle en philosophe. Ce n'est pas avoir des enfants. Ce n'est pas les éduquer. Ce n'est pas les marier. Ce n'est pas les mettre au couvent. Ou dans une communauté de bons. Alors, quelle est la finalité du mariage ? Est-ce qu'il y a une nouvelle finalité ? Oui, ben là je raisonne en philosophe, hein, et je dois le faire, puisque je dois vous faire un cours de philosophie politique. Alors, est-ce que ça existe ? La première question que je pose, c'est ça. Est-ce que ça existe ? Pour que ça existe, il faut qu'il y ait un principe propre de philosophie politique. Et là, je désire que vous cherchiez. Parce que si vous ne cherchez pas, vous ferez de la politique. Parce qu'il y a un grand-oncle qui faisait la politique. Parce qu'il y a un grand-père qui faisait la politique. Au choix personnel. Vous savez, quand on pose la question comme ça, on voit les gens mariés. Mais alors, quoi ? Quelle est la finalité ? C'est pas avoir des enfants. Ah, je croyais que c'était avoir des enfants. Mais non, ça peut pas être une finalité d'avoir des enfants. Mais si les enfants se conduisent mal, alors le père et la mère doivent se conduire mal. Avoir des enfants, c'est très très bien. Vous voyez, on a majoré avoir des enfants au point de vue chrétien. Au point de vue chrétien, on comprend. Et au point de vue purement philosophique, c'est très bien. C'est la joie des parents d'avoir des enfants. C'est bien évident. Et de bien les élever. Et qu'ils se marient bien. C'est très juste. Et qu'ils aillent au couvent. Et qu'ils sont heureux au couvent. Très bien. On voit que depuis qu'ils sont au couvent, ils sont de bien meilleure humeur. Ils sont toujours très gentils. Tandis qu'avant, oh là là. Voilà, il y a une question très importante. Quelle est la finalité humaine du mariage ? Bien, la finalité humaine du mariage, c'est l'amitié entre les époux. Et l'amitié entre les époux sera normalement source d'enfants, ce qui est normal. Mais les parents ne sont pas finalisés par leurs enfants. par son source. Causalité efficiente. Causalité efficiente. Et pas causalité finale. C'est catastrophique quand les parents sont la causalité finale des enfants. On a tous vu ça dans sa vie. Vous le verrez. Les familles, on était en telle admiration. J'ai vu ça, moi. On était en telle admiration vis-à-vis du père. Qu'aucun enfant se mariait. Ils étaient tous en admiration vis-à-vis du père. Les filles n'ont jamais vu quelqu'un d'aussi remarquable que leur père. Jamais. Tous les jeunes gens le regardent comparativement au père. Et les fils trouvaient leur père tellement admirable que... C'est curieux, mais les parents devenaient causalité exemplaire. Et les parents devenaient en causalité exemplaire. Alors, il y avait une échappée pour se faire religieux. Mais si vous entrez au couvent en disant « J'entre au couvent parce que... mon père est admirable. » Mais c'est pas votre père qui entre au couvent, c'est vous. J'ai jamais vu un homme aussi merveilleux que mon père. Alors, si je me marie, je serai moins bien que lui. Donc, seras-tu dégradé. La seule chose que je peux faire qu'il n'a pas faite, c'est une vie religieuse. Alors, je fais la vie religieuse parce que lui, il l'a pas faite. Alors, j'espère comme ça trouver mon originalité. On fera un très mauvais religieux. Alors, la question que je vous pose, et je voudrais que vous puissiez y réfléchir, y a-t-il une cause propre au plan philosophique pour déterminer la philosophie politique? Parce que je suis sûr que tous vous dites oui, il y a une philosophie politique. S'il y a une philosophie politique originale, il faut qu'il y ait la découverte d'un principe propre. En politique. Je voudrais que pendant 8 jours, vous réfléchissiez là-dessus. Pas la méditation, hein. Mais en dehors de ça, la lecture du réfectoire, ça peut vous faire réfléchir là-dessus. C'est important. Vous allez tous le dire, le bien commun. Ah. Le bien commun, ça c'est... Alors, réfléchissez, qu'est-ce que c'est que le bien commun? Est-ce que le bien commun est un principe? Un principe propre.